Donc, ce matin, aujourd'hui, c'est un message qui est un peu difficile à partager. Et c'est peut-être quelque chose que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà entendu, ou peut-être pas. Mais comment le partager? Moi, quand je partage ces choses, je préfère toujours aborder ces choses du point de vue de notre expérience. Comment est-ce que ça nous applique? Comment est-ce que ça s'applique à nous, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Comment est-ce que notre vie peut être touchée? Parce que c'est facile parfois de, et ça c'est la tendance humaine, de penser que nous, ça va, ça c'est les autres, ça c'est les autres, n'est-ce pas? Donc nous, grâce à Dieu, Dieu nous a sauvés et que Dieu ait de la pitié, n'est-ce pas, envers les autres. Oui, Dieu nous a sauvés, nous avons vu quelque chose. Mais nous voudrions encore voir quelque chose. Si nous nous arrêtons, n'est-ce pas, là où nous sommes, nous risquons de devenir comme les enfants d'Israël, comme le peuple de Dieu. Nous risquons de devenir quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Et donc, toujours, il faut continuer à poursuivre, continuer à chercher le Seigneur. Seigneur, y a-t-il rien en moi qui correspond à ça? N'est-ce pas? Donc, si vous voyez les grandes lignes, vous serez peut-être surpris de voir message 1A. Bon, je m'excuse. Mais ce message était je l'ai inséré. J'avais préparé presque tous les autres messages. Et puis, je me suis rendu compte, tiens, qu'est-ce que c'est que la Babylone? N'est-ce pas? On parle beaucoup de Babylone, mais on n'a pas encore défini. Alors j'ai inséré ce message entre le message 1 et le message 2. Donc, faute de faire d'autres choses, j'ai dit 1A. Ok, donc, mais ça peut facilement devenir le message 2. Et ainsi de suite. Donc, voilà. On a parlé de, n'est-ce pas, hier, on a parlé des vases. Nous avons abordé la question des vases. Dieu cherche des vases. Pas seulement des vases individuels, mais des vases, un vase corporatif, qui est l'Église. Et pour définir l'Église, qu'est-ce que c'est que l'Église? Bon, il y a beaucoup de définitions, il y a beaucoup de façons, n'est-ce pas, d'expliquer, de préciser, d'écrire l'Église. Mais, en fin de compte, qu'est-ce qui est l'Église? L'Église n'est autre que Christ lui-même.
Amen.
Vous voyez, on peut. Et la Bible nous donne beaucoup de définitions, beaucoup de descriptions. C'est pas l'Église, comme peut-être vous le savez, n'est-ce pas? Ce sont ceux qui ont été appelés. N'est-ce pas? Quoi? Vous savez, n'est-ce pas? L'Église, c'est quoi? La maison de Dieu, n'est-ce pas? Le temple de Dieu, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et l'épouse, n'est-ce pas? Très important, l'épouse de Dieu. Et aussi, on peut dire aussi, le guerrier, n'est-ce pas? L'armée de Dieu, n'est-ce pas? Le nouvel homme, n'est-ce pas? Le nouvel homme. Donc, différentes manières, mais essentiellement, quand nous cernons, nous venons à la source, l'Église ne peut être que Christ. Tout ce qui sort de Christ est l'Église. Tout ce qui ne sort pas de Christ n'est pas l'Église. Donc, nous avons chanté des cantiques ce matin dans mon esprit. N'est-ce pas? Nous apprenons à tourner à notre esprit. Vous voyez, à vrai dire, l'Église, où est l'Église? Où est l'Église? C'est une question qu'on pose, n'est-ce pas? On cherche l'Église. Quelle Église est-ce que je dois... À quelle Église est-ce que je dois me joindre? N'est-ce pas? Voilà. Où est l'Église? Ben, et l'Église est dans notre esprit. Vous voyez? Ça, c'est... quand nous touchons le Seigneur dans notre esprit, on peut dire que ça, c'est l'Église.
Amen.
Ça, c'est ce qui est de Christ. Christ demeure. Où est-ce que Christ demeure? Il demeure dans notre esprit. Et Dieu désire une demeure, n'est-ce pas? Une habitation. Et comme hier nous l'avons vu, n'est-ce pas? Salomon, lui, a bâti une maison, mais Dieu ne réside pas dans une maison bâtie par l'homme, n'est-ce pas? Mais selon Éphésiens, chapitre 2, verset 22, n'est-ce pas? Dieu est en train de nous former en une habitation de Dieu en esprit.
Amen.
Donc,
Amen.
L'Église, c'est Christ. Et l'Église est dans notre esprit. Donc, quand un esprit, notre esprit, un esprit humain, n'est-ce pas, touche un autre esprit humain, ça c'est l'Église. Bon, pratiquement, on appelle ça la communion, n'est-ce pas? Mais c'est là, l'écoulement, c'est le courant, n'est-ce pas, l'échange. Pas, essentiellement, pas de deux hommes ou deux femmes, mais c'est de Christ à Christ. Vous voyez, l'échange de Christ à Christ. Donc, Christ dans votre esprit touche le Christ dans mon esprit.
Amen.
Vous comprenez? Et c'est ça qui est, c'est ça l'Église. Vous voyez? Ah, c'est trop spirituel, oui. C'est trop éphémère, n'est-ce pas? Mais ça, c'est la réalité. N'est-ce pas? Quand un esprit, mon esprit, touche Christ, et votre esprit touche Christ, tout de suite, il y a la communion. N'est-ce pas? Et ça, c'est l'Église. Donc, tout ce qui n'est pas esprit ne fait pas partie de l'Église. Ne peut pas faire partie de l'Église. Mais le problème, c'est que l'homme, n'est-ce pas, avec ses bonnes intentions, veut bâtir l'Église. Il veut créer, il veut faire l'Église, n'est-ce pas? Et ça, c'est, on peut dire, l'avantage et le désavantage. Parce que sans l'homme, Dieu ne peut pas avoir l'Église. Dieu a besoin de l'homme. Il a besoin de nous. Mais il a besoin de Christ. Parce que tout ce qu'il fait est Christ. Tout ce qui sort de lui est Christ. Alors, comment réconcilier les deux? Nous, qui sommes des êtres humains, n'est-ce pas? Une fois loin de Dieu. Comment est-ce que Dieu, qui recherche l'homme, peut se servir? Comment est-ce que l'homme peut le servir? Comment est-ce que l'homme peut le satisfaire? Pour qu'il ait l'Église. Voilà la question, n'est-ce pas? Alors, l'homme œuvre, l'homme travaille, l'homme veut plaire à Dieu, l'homme veut faire quelque chose pour Dieu. Et Dieu dira, j'ai besoin de vous, mais je n'ai pas besoin de ça. Moi, je vais œuvrer en vous.
Amen.
Pour que tout ce que tu fasses soit ce que j'ai déjà œuvré en vous. ce que tu feras, l'homme, sera ce que moi, Dieu, fera en toi. Donc, ce que tu produiras, homme, sera ce que moi, Dieu, j'ai déjà produit en toi. Vous voyez, ça c'est le principe de Dieu. Et voilà, d'une façon très succincte, n'est-ce pas, un peu la Bible, le dessein de Dieu, n'est-ce pas? Et tout le reste tombe dans dans ce schéma, n'est-ce pas, dans cette image. Alors, donc, la Bible, ou même l'histoire de l'homme, c'est une peinture, c'est un portrait de l'homme, la recherche de l'homme, la recherche de Dieu, de la part de l'homme, l'histoire, toutes les religions, si vous voulez. Si vous les étudiez en détail, à toutes les façons d'adoration, pas seulement chrétienne, non, je veux dire toutes formes, toutes sortes d'adoration, c'est l'homme qui recherche Dieu. Parce que dans l'homme, il y a cette partie créée par Dieu, n'est-ce pas, dans notre esprit, tout le monde en a un, n'est-ce pas, qui correspond à Dieu. Et donc, hier, on a vu ça. L'homme, dans son pire, dans sa condition la plus mauvaise, a cette partie qui correspond à Dieu. Et quand cette partie est activée ou est un peu ranimée, touchée, l'homme, tout de suite, commence à chercher Dieu. Mais la Bible nous montre le contraire. La Bible nous montre Dieu qui cherche l'homme.
Amen.
Et voilà la différence. Si on vous demande, pour moi ça m'a beaucoup aidé. Si on vous demande, quelle est la différence entre le christianisme, n'est-ce pas là, bon, on dit la religion chrétienne, la foi chrétienne, quelle est la différence entre la foi chrétienne et les autres religions, n'est-ce pas, au lieu de critiquer les autres religions, parce que, non, on peut répondre de cette manière, n'est-ce pas, oui, toute religion, c'est l'homme qui cherche Dieu, mais dans la Bible, n'est-ce pas, la foi chrétienne, c'est Dieu. Donc Dieu vous cherche. Vous voulez chercher Dieu? Vous allez le trouver? Peut-être. Mais Dieu, maintenant, il vous cherche. Alors vous voulez le trouver? Il est là. Ouais. Non, ça m'a aidé, n'est-ce pas? C'est... Donc, voilà. N'est-ce pas? La Bible nous donne... Mais la Bible nous donne aussi... La tentative de l'homme, les efforts de l'homme de rechercher Dieu. Et donc, l'homme a besoin d'être sauvé. Il a besoin d'être sauvé par Dieu. Et il a besoin, en tant qu'un vase, l'homme a besoin d'être œuvré par Dieu. Il a besoin que Dieu vienne s'œuvrer en lui pour satisfaire Dieu. Donc, le problème, c'est que ce qui se passe, c'est que une fois qu'on est sauvé, on reçoit le salut, n'est-ce pas ? Il y en a beaucoup qui pensent, ok, ça va, je suis sauvé. Maintenant, je peux servir Dieu. Maintenant, je suis capable. Maintenant, je vais construire quelque chose pour Dieu. Vous voyez, on a quelque chose de Dieu et on pense qu'avec ça, on peut exécuter. Mais Dieu, et donc David, avait l'intention de bâtir la maison pour Dieu. Et c'était une bonne intention. Et David était même qualifié, il avait ramassé tous les matériaux, n'est-ce pas? Il avait payé le prix. Et Dieu lui a dit, ah, personne d'autre n'a pensé à ça. Même moi, je ne l'ai jamais mentionné. Comment se fait-il que toi, n'est-ce pas, il dit au prophète, comment se fait-il que David ait pu penser à ça? Incroyable. Et puis Dieu continue. Mais tu ne vas pas bâtir une maison pour moi. Moi, je vais bâtir une maison pour toi. Vous voyez? Donc, ça c'est le principe de Dieu. C'est la voix de Dieu. V-O-I-E. N'est-ce pas? La voix de Dieu. C'est Dieu. C'est le chemin de Dieu. La façon dont Dieu œuvre. Contraire à l'homme. Donc, nous avons besoin, n'est-ce pas, d'être œuvrés. On peut dire que Dieu œuvre en nous. Ok. Donc, la Babylone, la captivité, n'est-ce pas, parce que finalement, éventuellement, les enfants d'Israël ont fini en captivité sous le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, en 606 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, est venu avec son armée pour capturer les enfants de Juda, pour les ramener captifs en Babylone. Et ça, c'était la fin du temple. Le temple a été détruit. Le temple que Salomon a construit, n'est-ce pas, démoli. La ville de Jérusalem a été détruite, n'est-ce pas, oui, incendiée, oui. Et la plupart des habitants ont été ramenés captifs. Jérusalem est devenue une ville désolée, une ville vide, n'est-ce pas? Et ça, c'est la captivité, c'est la conséquence d'une vie, d'une manière de vivre loin de Dieu. Et donc, ce matin, nous voulons tracer un peu la ligne. Quelle est cette ligne, ce fil de Babylone? D'où vient Babylone, la Babylone? Quelle est la source? Quelle est l'origine? Donc, dans la Genèse, chapitre 11, nous avons lu, n'est-ce pas, les 9 versets qui nous décrivent la source ou l'origine de la Babylone. Babylone, c'est une ville, n'est-ce pas, c'est une ville. Ou un pays avant, n'est-ce pas? Avant, c'était un grand pays. Mais au début, comment est-ce qu'elle a commencé? Et dans la Genèse chapitre 11, si vous connaissez un peu la Genèse, le début de la Genèse, vous savez sans doute que, n'est-ce pas, l'homme a chuté. Donc, avec Adam et Ève, n'est-ce pas, ils ont chuté, ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu la présence de Dieu. Vous voyez, ils sont morts. Mais pas physiquement, spirituellement. Dieu leur avait dit, le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Et effectivement, l'homme est mort. Mort, quoi? Son esprit est devenu mort. Sa conscience est devenue, n'est-ce pas, Vous voyez, la conscience a été activée. Donc, l'homme savait, n'est-ce pas? L'homme savait qu'il avait péché. Adam, il a su tout de suite. Alors, il s'est caché de la présence de Dieu. Parce qu'il avait perdu la présence de Dieu. Vous voyez? Donc, autrefois, au début, l'homme vivait selon Dieu lui-même. Dieu était tout pour l'homme. L'homme dépendait de Dieu. Mais maintenant, l'homme avait perdu Dieu. Alors, comment est-ce que l'homme pouvait vivre selon sa conscience? Selon sa conscience, qui lui disait ce qui était bon, ce qui était mauvais. Il avait raison, il avait tort. N'est-ce pas? L'homme n'a pas écouté sa conscience non plus. Alors Caïn, n'est-ce pas, a tué son frère Abel. Caïn a tué son frère Abel, n'est-ce pas, et l'homme a chuté même encore. Maintenant, avec cette chute, l'homme n'a pas seulement perdu la présence de Dieu, mais il s'est éloigné de Dieu pour construire quelque chose. Quoi? Construire une ville, n'est-ce pas? Et construire une civilisation. L'homme, n'est-ce pas, sans Dieu, pas seulement la présence, mais sans Dieu lui-même. Alors, vivant lui-même, vivant indépendamment, pas besoin de Dieu. L'homme, il a créé trois choses, n'est-ce pas? Quoi? La défense, la nourriture, oui, et la plaisir. Les plaisirs, les passe-temps, les loisirs. Oui. Et il y a trois individus, n'est-ce pas? Trois gens-là qui, n'est-ce pas? Quoi? Jabal et Tubal-Cain, n'est-ce pas? Jabal pour la nourriture, Jubal pour la musique, oui, les plaisirs, et Tubal-Cain pour la défense, n'est-ce pas? Voilà. Et si vous simplifiez les choses, n'est-ce pas? Une civilisation, une culture dépend de ces trois choses. On a besoin de vivre, de manger, de boire, on a besoin de des maisons, n'est-ce pas? Ça c'est Jabal. On a besoin aussi de se défendre contre les ennemis. C'est Tubal-Cain. Et on a besoin de se divertir. N'est-ce pas? Voilà. Deuxième chute, n'est-ce pas? Bon, mais l'homme s'est empiré, il est devenu pire. Vous voyez, sans Dieu, l'homme peut tout faire. Alors, même aujourd'hui, sans la main de Dieu, sans la... quoi? Sans l'esprit, n'est-ce pas, l'homme peut tout faire. Même aujourd'hui, Dieu est là. Dieu, mais il y aura un jour où la présence de Dieu où là, sera retirée. Et à ce moment-là, l'homme va vraiment... Vous croyez que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde est mauvais? Attendez ce jour-là. Quand l'esprit, ce que la Bible décrit, l'esprit de... l'esprit de... The spirit of lawlessness. L'esprit de... du péché. Allez contre Dieu. Oui, l'Antichrist.
Oui.
L'esprit de l'Antichrist, sera manifesté. Ça veut dire que Dieu retirera sa main, n'est-ce pas? Maintenant, sa main soutient quand même le monde, n'est-ce pas? Et même actuellement, vous voyez des choses bizarres, des choses que, n'est-ce pas? Et vous pensez, ah, où était Dieu, n'est-ce pas? Comment est-ce que ça s'est passé? Mais croyez-moi, un jour, ce sera beaucoup pire. Donc, l'homme devient pire en pire. Et éventuellement, toute la race de l'homme a rejeté Dieu. Donc, même les fils des... les fils de Dieu, les anges sont descendus pour se mêler, se marier avec les filles des hommes. Donc, un mélange, n'est-ce pas? Il y a eu un mélange de la race humaine et de la race angélique. De sorte que quelque chose qui a été créé, même des géants, n'est-ce pas? Quelque chose de grotesque. Totalement contraire à Dieu, mais avec quand même quelque chose de Dieu. Et Dieu a vu, n'est-ce pas? Toute la race était devenue corrompue, totalement, pas seulement le péché, pas seulement l'indépendance, mais corrompue. Totalement. Alors Dieu est venu juger. Avec l'inondation, oui, par le déluge. Ça, c'est la troisième chute. Et après le déluge, c'est pas Dieu a purifié, il a purifié, il a terminé. N'est-ce pas? Il a terminé la race, n'est-ce pas? Il a terminé la race humaine, sauf Noé et ses fils et leur famille ont été sauvés. Et Dieu a recommencé avec Noé. Mais nous arrivons à la Genèse chapitre 11, n'est-ce pas? Les fils de Noé se sont multipliés, sont devenus un peuple, n'est-ce pas? Tous ensemble, avec une même langue, un même langage. Mais ils voulaient créer quelque chose, n'est-ce pas, pour atteindre Dieu, mais en même temps, se faire un nom pour eux-mêmes. Ça, c'est la tour de Babel. Vous voyez? Et ça, c'est le commencement. On peut dire, ça, c'est la quatrième chute. Donc, si vous voyez, lisez la Bible de cette manière, n'est-ce pas, vous verrez quatre sortes de chutes. Et la quatrième est la pire, n'est-ce pas? Parce que, à ce moment, c'est une rébellion totale contre Dieu. Babel veut dire confusion, n'est-ce pas? Mais le mot hébreu, Babel, veut dire littéralement porte à Dieu. Porte, n'est-ce pas? Une porte à Dieu. Gateway. Donc, une entrée. L'homme, ici, voulait atteindre Dieu, mais à sa manière. Vous voyez, cette chute, si vous lisez, quand j'ai lu cette histoire plusieurs fois, moi, je voyais pas le mal. Quand vous l'avez lu, ok, soyez honnête, quand vous l'avez vu pour la première fois. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de péché. C'est pas comme comme Adam et Ève, ils ont désobéi. N'est-ce pas? Voilà, la désobéissance. C'est pas comme le temps de Noé. C'est pas qu'ils ont tué quelqu'un comme Caïn. Il voulait faire quelque chose pour Dieu. Il voulait construire parce qu'il voulait être un. N'est-ce pas? Faisons quelque chose pour ne pas être dispersés. Que nous soyons un. Et pourquoi donc est-ce que Dieu a été tellement contraire? N'est-ce pas? Et c'est comme si Dieu lui-même, n'est-ce pas, il a pris, il s'est intéressé. Il a dit, voyons voir ce qu'ils font. Pour les autres chutes, il n'a pas fait ça, parce que c'était évident. N'est-ce pas, Azé? Mais ici, il y a quelque chose de Dieu, pour Dieu. N'est-ce pas? Et Dieu vient voir. Voyons voir ce qu'ils ont fait. Ah. Vous savez la première fois que Dieu a dit ça? Quand il a dit, il a utilisé la troisième forme du pluriel. Faisons l'homme. Oui, c'est ça. faisons l'homme à notre image. La première fois. Ça, c'est positif. Parce que c'était Dieu. La création de Dieu. La deuxième fois. Empêchons-le, oui. C'est négatif. Oui. Donc, Babel, hein, c'est quoi? C'est la religion. Babel, c'est le début de la religion. En un mot, c'est l'homme qui essaie d'atteindre Dieu. Mais comment est-ce que ça, c'est le pire? Ça devrait être le meilleur. Le péché, le meurtre, l'assassinat. Les gens qui font de mauvaises choses dans les rues, n'est-ce pas? Qui tout d'un coup qui tirent, comme au Michigan, aux États-Unis. J'ai vu l'autre jour, mais j'ai des amis, il y a des frères et sœurs là-bas, à Kalamazoo, où, n'est-ce pas, un conducteur de taxi, je pense. Il a tiré cette personne qui est morte. N'est-ce pas? Et vous connaissez aussi, n'est-ce pas, à Paris, à Mali, Burkina, oui. Voilà. Comment est-ce que l'homme peut faire des choses comme ça? Et Dieu dira, la religion. Donc, l'homme, pour essayer de se guérir, n'est-ce pas, de cette maladie, n'est-ce pas, c'est son péché, il va plaire à Dieu, il va faire quelque chose pour Dieu. Ben, je vous garantis, il y a ces gens-là, non, c'est beaucoup d'entre eux, ils vont aller à l'église, ils vont aller quelque part à un centre d'adoration pour adorer Dieu, pour donner quelque chose à Dieu. Oui. Ne croyez pas que ces gens-là sont des païens. Ils vont essayer de plaire à Dieu, donner quelque chose. Ça, c'est la religion. Et ça, c'est la quatrième chute. Babel, c'est la religion. Babel, c'est quoi? C'est la rébellion, n'est-ce pas, contre Dieu, de vouloir se faire un nom afin de ne pas être dispersé sur la face de toute la terre. voulant atteindre Dieu selon ses propres moyens. Et donc, ce que Dieu déteste le plus, c'est la religion. Parce que la religion, c'est un mélange de Dieu et d'autres choses. Et Dieu, hier, dans les grandes lignes, nous n'avons pas lu les versets en Jérémie à cause du temps. Dieu dit, je déteste la perfidie de Judas. Judas, n'est-ce pas, qui prétendait aimer Dieu, mais qui servait des idoles. Dieu dit même les païens, ils sont meilleurs que vous. Parce qu'au moins, ils ne changent pas leur Dieu. Ils restent fidèles à leur Dieu. N'est-ce pas? Mais vous changez. Vous m'échangez. Et vous prétendez adorer. Vous prétendez m'adorer. Alors, vous êtes perfide. La perfidie de Judas. Ça, c'est la religion. Soit, il faut dire, soit je suis pour Dieu, soit je ne suis pas pour Dieu. J'abandonne Dieu, je fais ce que je veux. Mais ne me venez pas, n'est-ce pas? Oh Dieu, je veux faire quelque chose pour vous, pour toi, je vais t'offrir quelque chose. Oui, tu es perfide. Donc, Babel, hein, c'est le commencement de la religion. Faire une tour. Ah. Caïn. Ah. Bon, si vous lisez Caïn, l'histoire de Caïn. Ah. Caïn avait. Il a offert quelque chose à Dieu. N'est-ce pas? Et Abel, son frère, a offert quelque chose. Et Dieu a respecté l'offrande d'Abel. Dieu a respecté moins l'offrande de Caïn. Vous voyez, si vous étudiez, vous examinez la réaction de Dieu, si vous lisez l'histoire, Dieu avait moins de respect. Il a apprécié moins l'offrande de Caïn que celle d'Abel. Dieu n'a pas rejeté l'offrande de Caïn. Bon. Et quand Caïn s'est fâché, Dieu est venu l'avertir. N'est-ce pas? Si tu fais bien, n'est-ce pas? Ouais. Mais si tu fais mal, ah, si ta mine, n'est-ce pas, ta mine, pourquoi est-ce que ta mine est... Tu as une mauvaise mine. Enfin, le péché se cache. Mais toi, tu vas le maîtriser. Ça veut dire que Dieu était prêt à œuvrer avec Caïn. Il n'a pas rejeté totalement. N'est-ce pas? Bien que Caïn ait offert quelque chose de ses propres efforts, n'est-ce pas? De la terre. Pas selon Dieu, comme Abel. Oui, mais Dieu ne l'a pas rejeté. Caïn pensait que Dieu l'avait rejeté. Il aurait dû demander à Dieu, mais Dieu pourquoi? N'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que Abel... Pourquoi? Donc, voyez, et avec le mélange de la race humaine avec la race angélique, ah, il n'y avait pas d'effort de l'homme d'atteindre Dieu. Mais avec Babel, maintenant l'homme s'approche de Dieu. Tout en se faisant un nom. Ça veut dire que moi, je viens à Dieu selon mes propres termes. Je construis quelque chose, mais en le construisant, je me glorifie. Alors, Dieu, je veux que tu vois, que tu me vois. Me voilà qui vient vers toi. Hein? Je vais t'atteindre, je vais te satisfaire selon ma manière. Et ça, c'est le début de la religion. Alors, donc, Dieu les a confondus. Il a dit, n'est-ce pas? Nous, on ne sait pas ce que l'homme va faire, ce qu'il pourra faire maintenant. Il est arrivé à ce point, n'est-ce pas, qu'il est capable de tout. Alors, on va les confondre. On va les disperser, n'est-ce pas? Parce que une race, ou un peuple, ou un homme corporatif, souvenez-vous toujours, Dieu a besoin d'un vase corporatif. Mais un vase qui est rempli de lui, un vase qui a Dieu lui-même, où Dieu œuvre. Pas un vase pour faire quoi que ce soit. Un vase corporatif sans Dieu, hein, essayant d'atteindre Dieu, ne peut jamais satisfaire Dieu. Va même détruire ce que Dieu veut faire. Va abîmer. Donc, Dieu est venu juger. Le quatrième jugement. N'est-ce pas? Et l'homme s'est divisé. N'est-ce pas? Donc, vous voyez? Et donc, si vous tracez, vous voyez ce fil de Babel à travers la Bible, vous verrez le développement de Babel. Tout au long de l'histoire de la Bible. Et ceci s'applique à nous aussi, vous voyez. Parce que dans la vie de l'Église, la religion, c'est quelque chose que nous ignorons souvent. Le péché, nous en sommes conscients. Parce que nous avons une conscience et nous avons le Seigneur, n'est-ce pas? Et là, tout de suite, il y a un feu rouge qui s'allume, n'est-ce pas? Et bien que nous soyons pécheurs, n'est-ce pas? Nous nous rendons compte, Seigneur, ça, ce n'est pas ce que tu aimes. Seigneur, lave-moi. Seigneur, purifie-moi. Le monde représenté par Caïn est plus complexe. Parce que le monde, n'est-ce pas, la civilisation, la défense, les loisirs, la nourriture, se présente sous un bon aspect. On a besoin de ça. N'est-ce pas, ce ne sont pas des choses méchante. On a besoin d'une maison, on a besoin de manger. Alors, pourquoi pas, n'est-ce pas? Donc, le monde, quand le monde entre, c'est plus subtil. Mais même le monde, on peut le reconnaître. Quelque chose qui remplace Dieu. Quand vous êtes, nous sommes occupés, nous sommes, n'est-ce pas, il y a quelque chose dans notre cœur ou notre vie qui nous occupe. Hein? Par exemple, une certaine quoi, un passe-temps, n'est-ce pas, un passe-temps, un loisir ou quelque chose, n'est-ce pas, qui nous occupe, nous savons notre amour pour le Seigneur est moins, notre soif pour la parole est moins, même venir à la réunion. Ah, mais aujourd'hui, ce soir, il y a quelque chose qui se passe, n'est-ce pas? Il y a une fête. Il y a une fête, il y a un événement, n'est-ce pas? Sportif. Quelque chose qui remplace le Seigneur. Ça c'est le monde, n'est-ce pas? Quelque chose qui remplace le Seigneur. Nous savons, le Seigneur n'est pas là. Parce que notre condition reflète le manque du Seigneur, l'absence du Seigneur. Mais la religion est la plus difficile à reconnaître. Parce que nous faisons quelque chose pour Dieu. Et donc, nous sommes zélés, n'est-ce pas ? C'est pas le monde. On n'a rien à voir avec le monde. Non, nous sommes religieux. N'est-ce pas? Le péché, oui, c'est bon. Mais la religion. Et ça, c'est difficile à reconnaître. Et même si on nous avertit, même si on nous l'a fait savoir, on le fait savoir, nous aurons du mal. Ah non, 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 ça c'est pas moi. Non, comment? Moi je suis pour le Seigneur. Je suis pour son témoignage. Je suis pour la volonté du Seigneur. Je veux atteindre Dieu. Je veux atteindre l'objectif de Dieu. Mais nous ne savons pas, nous ignorons qu'il y a une toute petite chose, peut-être. Nous voulons nous faire un nom pour se faire voir. Hein? Pour que moi, je sois impliqué dans l'œuvre de Dieu. Je sois impliqué dans le dessein de Dieu. Qu'on me reconnaisse. Et que ce que moi je gagne de ça, que je puisse l'avoir, ça puisse appartenir à moi. Ça c'est Jéroboam. Vous voyez, nous avons lu les versets, n'est-ce pas, dans un roi. Mais, ok, considérez, parce que Jéroboam, la raison pour laquelle j'ai choisi Jéroboam, Jéroboam est un exemple de quelqu'un qui était zélé. Quelqu'un qui était même choisi. Mm-hmm. N'est-ce pas? On a parlé d'être choisi hier, n'est-ce pas? Dans la vie de l'Église, on n'est pas choisi par l'homme. On est manifesté. N'est-ce pas? Bon. Mais Jéroboam, n'est-ce pas? Il était quelqu'un que Dieu même avait choisi. Le prophète Akija est venu lui dire, il a déchiré son vêtement, n'est-ce pas, son nouveau vêtement, en 12 morceaux. Il en a donné 10 à Jéroboam, qui était le servant, n'est-ce pas, de Salomon. Mais il était en Égypte. Il est revenu. quand Salomon...
Non, c'était avant la mort de Salomon, je pense.
Oui, c'était avant la mort de Salomon. Ah. Il était toujours en...
Je pense qu'en Juda. En Égypte, il est allé plus tard, n'est-ce pas?
Et puis, il a dit, le royaume sera divisé. Toi, tu en obtiendras 10 tribus. Mais je garderai
les deux autres à cause de mon serviteur David.
Parce qu'il était fidèle. N'est-ce pas? Salomon n'était pas fidèle. Donc, on a parlé de ça hier beaucoup, n'est-ce pas? Salomon et David. Mais à cause de David, je garderai. La lampe de David ne s'éteindra jamais. Mais toi, Jéroboam, je te donnerai le royaume du Nord, les 10 tribus. Et Salomon, n'est-ce pas, il a entendu parler de ça, il a essayé de tuer Jéroboam. Jéroboam a fui en Égypte. Quand Salomon est mort, il est revenu. Et le fils de Salomon, Roboam, est devenu roi de Juda. Et Jéroboam est venu, n'est-ce pas, avec tout Israël, auprès de Roboam, n'est-ce pas? Et si vous lisez l'histoire, vous saurez que ils ont demandé à Roboam d'alléger le joug, n'est-ce pas, sous lequel ils avaient souffert pendant le règne de Salomon. Roboam, il a écouté le conseil de ses camarades, n'est-ce pas, des jeunes. Il n'a pas écouté le conseil des vieillards. Effectivement, il n'a pas cherché Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est... Mais il n'a pas écouté le conseil des vieillards. Il a répondu durement, n'est-ce pas? Et par conséquent, Israël, les 10 tribus, n'ont eu rien à voir avec Roboam. Ils ont dit, nous nous séparons, et Jéroboam est devenu roi du royaume du Nord. Mais selon Dieu, la promesse de Dieu, n'est-ce pas? La prophétie. Et Roboam, il a voulu forcer, faire la guerre contre Jéroboam pour les ramener, pour que tout le peuple soit un. Il a dit non, tu ne feras pas ça. Ce qui est arrivé, c'est à cause de moi. Alors, tu ne vas pas faire guerre contre tes frères. Alors, il s'est arrêté. Jéroboam, par contre, n'est-ce pas? Selon la parole de Dieu, il avait Dieu de son côté, n'est-ce pas? Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Ah, il y a beaucoup qui disent ça. Dieu m'a dit. Ok, on peut pas dire, on peut rien dire si Dieu t'a dit. Donc, il a décidé de construire deux veaux d'or. Oui. Deux centres d'adoration. Très intéressant. Un centre dans la tribu de Dan, qui était tout au nord, et un centre d'adoration à Bethel, qui était tout au sud, juste près de la frontière entre, n'est-ce pas, Juda et Ephraïm. C'est ça, oui. Mm-hmm. Juda et Ephraïm. Donc, ça permettait aux gens, de descendre dans le sud, ceux qui habitaient vers le sud, descendre vers le sud, d'adorer Dieu à Bethel. Et ceux qui étaient dans le nord, de monter
à Dan.
Mais pas de d'aller à Jérusalem, là où Dieu avait mis, choisi de mettre son nom.
Les versets dans Deutéronome, chapitre 12, n'est-ce pas,
c'est les versets là. Pourquoi? Ben, il a donné la raison lui-même.
Il s'est expliqué.
Ah, de peur que mon peuple aille à Jérusalem adorer l'Éternel et que je perde.
Je perde mon royaume. Mais ça c'est... Ah, ça c'est Jéroboam. Oui, à quoi ça c'est... Ça n'a rien à voir avec nous, n'est-ce pas? Non, ça a beaucoup à voir avec nous.
Parce que Jéroboam, on peut dire, est un frère. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, voilà ce qui m'a aidé, beaucoup aidé. Avant, autrefois, quand je le lisais, comme, bah, ces gens-là, n'est-ce pas, ils étaient méchants, ils étaient loin de Dieu. Comment est-ce que Dieu a pu les choisir comme roi? Moi, je vis dans le Nouveau Testament, je suis... Non, tous ces rois-là, on peut dire, étaient serviteurs, des frères, des gens qui servaient le Seigneur. Et nous devons nous mettre à leur place. Vous voyez, Jéroboam, c'est qui? C'est moi. N'est-ce pas? Jéroboam, c'était un frère qui a été choisi par Dieu, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il a servi? Comment est-ce qu'il a servi son Seigneur? À sa manière. Pas pour le Seigneur, mais pour garder quelque chose pour lui-même. Donc, l'ambition. L'ambition. Quelque chose. Vous voyez, quand nous servons le Seigneur, quand nous, dans la vie de l'Église, notre objectif, notre seul objectif doit être Christ. Ce n'est pas combien de frères sont avec moi. Combien de frères sont à mon côté, sont un avec moi. Non. Ça, les frères et les sœurs ne sont jamais notre capital. Mais ce qui peut arriver, c'est que les frères et les sœurs peuvent devenir notre capital pour que nous les utilisions pour nous faire nous avancer. Mais au nom de Dieu, n'est-ce pas? Alors même dans la vie de l'Église, même si vous avez une idée ou vous avez un désir, peut-être que le Seigneur vous a parlé, vous a parlé d'une certaine manière, vous avez un fardeau. Comment vous pensez que l'Église doit avancer? Ne faites jamais, ne vous appuyez jamais sur le fait que il y a tel ou tel frère qui est d'accord avec moi. Vous voyez? Ou, n'est-ce pas, il y a deux ou trois frères qui, nous sommes tous du même avis. Non, ça ce n'est pas la raison pour laquelle le Seigneur vous a donné le fardeau. Si c'est un fardeau du Seigneur, le fardeau va se manifester. On n'a pas besoin du soutien des autres frères et sœurs pour prouver que le fardeau est du Seigneur. Mais ce qui peut arriver facilement, c'est que on s'appuie ou on cherche les votes.
Ben, on ne vote pas, mais on vote.
On pense comme ça. On cherche les votes, n'est-ce pas? On cherche le
tel ou tel frère. Et puis nous venons, n'est-ce pas, aux anciens, nous venons, n'est-ce pas, à la réunion pour proposer. Non, l'Église n'est pas un royaume où j'ai ma... quoi... place, ma petite... dans un royaume, il y a plusieurs petits sous-divisions.
Ah, oui.
Comme au Moyen Âge, n'est-ce pas? Il y avait le système féodal, n'est-ce pas? Féodal. Il y avait des seigneurs, n'est-ce pas? Le bon seigneur était le chef. Et puis il y avait des seigneurs, n'est-ce pas? Chacun, oui, province, c'est ça. Chacun dans sa province. La vie de l'Église, c'est j'ai pas ma province. Oui, j'ai mon terrain. Il y a un terrain, n'est-ce pas, où on peut œuvrer. Mais même le terrain n'est pas à moi, n'est pas mon monopole, n'est-ce pas, mon monopole. Oui, je dois avoir un terrain, mais le terrain, je dois être ouvert à le partager. Le terrain est ouvert à quiconque veut œuvrer. Moi, je dois être fidèle à œuvrer. Mais s'il y a d'autres frères et sœurs qui veulent, et même je dois les chercher pour, n'est-ce pas, pour qu'on puisse œuvrer ensemble. Mais au moment, dès que je commence à m'inquiéter, ah, qu'est-ce qui va m'arriver si... si tout le monde vient dans mon terrain, moi je n'aurai pas de terrain. je serai hors de travail. Ah, Seigneur. Non, et je parle selon mon expérience parce que, ok, je vais vous raconter. Parce qu'à Montréal, n'est-ce pas, maintenant, avec les jeunes, n'est-ce pas, les jeunes. On a passé des années avec eux, depuis l'âge de 12 ans, jusqu'à l'âge de l'université. On était tous ensemble. On n'avait pas de... On ne les séparait pas. Parce qu'ils voulaient être ensemble. Donc, du plus jeune au plus âgé, on était ensemble et... N'est-ce pas? Et c'est nous qui, moi et puis un autre frère, n'est-ce pas, nous étions là et nous les avons nourris, nous les avons aimés, n'est-ce pas, pour croître, pour... Et toujours, nous avons eu la pensée, le fardeau, que nous devons... que la réunion des jeunes, c'est leur réunion, n'est-ce pas? Nous sommes là pour les encourager, mais pas pour les dominer, n'est-ce pas? Mais au début, n'est-ce pas, il fallait quand même dispenser quelque chose, il fallait, n'est-ce pas? Donc, on a fait ça, mais toujours avec la pensée ou le fardeau de susciter, n'est-ce pas? De sorte que eux-mêmes, ils puissent avoir leur propre réunion, ils puissent lire la Bible et la partager selon leur manière, à leur manière, n'est-ce pas? Et donc moi, l'année passée je suis parti et on commençait déjà, mais quand je suis parti, on était obligé de faire ça. il y avait des frères et des sœurs qui se levaient, mais tant que nous étions là, c'était difficile. Quand je suis parti, n'est-ce pas, l'autre frère avec qui j'ai passé beaucoup de temps, Il a continué à faire la cuisine pour eux. Mais c'est tout. Maintenant, c'est eux-mêmes qui ont la réunion. Il y a des frères et des sœurs qui... surtout les sœurs. Mais il y a quelques frères qui savent maintenant lire la Bible, retirer les faits dans la Bible et les présenter avec une application aux jeunes, n'est-ce pas? Parce qu'ils connaissent les jeunes se connaissent, n'est-ce pas? Ils savent parce qu'ils sont jeunes. Alors même les exemples qu'ils donnent, moi, je ne pense jamais à ça parce que moi je suis beaucoup plus âgé. Et même pour trouver des exemples pour les jeunes Américains ou Canadiens, je dois vraiment penser, réfléchir. Mais eux-mêmes, ils commencent à, n'est-ce pas, à se lever. Alors, quand moi j'ai entendu ça, ma réaction intérieurement, n'est-ce pas, d'une part, j'étais content. D'autre part, le je revois mon moi disait, ben, quand moi je rentre à Montréal, si je rentre à Montréal, qu'est-ce que je ferai? Parce que, n'est-ce pas, quelle sera ma fonction? Vous voyez? Donc, au lieu de, on s'inquiète de sa fonction, de sa, n'est-ce pas, qu'est-ce que moi je ferai? Comment est-ce que moi je servirai? Au lieu de dire comment est-ce que je pourrais servir, comment est-ce que je pourrais collaborer avec le Seigneur, ce que le Seigneur est en train de faire dans ces jeunes. Et ma fonction peut bien changer. Peut-être pas plus partager quelque chose. Vous voyez, les frères, bon, je sais pas, les frères aiment partager. Bon, les frères savent de quoi je parle. Donc, si, oui, si on n'a pas de terrain, n'est-ce pas, on s'inquiète de partager. Mais je vous dis, le terrain n'est pas le partage. Le terrain, ce sont les gens. Donc, le terrain sont les frères et les sœurs. Les jeunes peuvent toujours être un terrain, mais la fonction peut être différente. Mais si moi je m'inquiète de ma fonction, oh, je vais perdre. Je suis comme Jéroboam. N'est-ce pas? Alors, ce qu'on a fait, on continue de faire, pas maintenant parce que moi je suis ici, mais l'autre fois, continue. On lit la Bible chaque semaine avec des jeunes ensemble sur l'internet, Skype. Et c'est comme ça qu'ils ont se sont développés. Ils sont familiers avec la Bible, ils connaissent, ils sont à l'aise à lire la Bible. Peut-être en Afrique, c'est plus facile de lire la Bible. Parce que la Bible est quelque chose qui est... C'est pas un livre oublié. En Amérique du Nord, je vous dis, la Bible est un livre oublié. C'est parmi les jeunes. Il y a beaucoup de choses qui remplacent. Donc, le fait même d'ouvrir la Bible, de lire un chapitre... Parce qu'au début, on disait, je comprends rien. Je comprends rien. Alors, alors, il fallait continuer, n'est-ce pas? Lire fait par fait. Ok. Verset 1. Faites une paraphrase. Qu'est-ce que ça dit? N'est-ce pas? Non, non, non. Est-ce que c'est... Bon, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que le verset dit? On a fait ça, n'est-ce pas? Et peu à peu, ils ont appris, n'est-ce pas? Ils apprennent à... Alors maintenant, vous les voyez? Oh, c'est... Ils sont très très bons. Alors, on se réjouit. Moi, je devrais me réjouir, parce que ça, c'est... N'est-ce pas? Mais le Babel en moi, n'est-ce pas, représenté par Jéroboam, il veut quelque chose pour lui-même. Non, si ça arrive, je vais perdre. Non, ces jeunes ne m'appartiennent pas. N'est-ce pas? Je dois vraiment, n'est-ce pas, me gifler sur les billets. Les saints ne m'appartiennent. Mais, frères et sœurs, vous ne savez pas comment l'ennemi, comment le Jéroboam en nous, n'est-ce pas, qui veut secrètement quelque chose pour soi-même. Au nom de Dieu, au nom de servir Dieu, ne serait-il pas merveilleux si nous perdions notre fonction comme ça, cette sorte de fonction, n'est-ce pas, que, n'est-ce pas, une autre génération commence à diriger l'Église.
Amen.
N'est-ce pas? Mais non, 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 nous insistons. Vous êtes encore jeunes, donc. Non, mais, n'est-ce pas, nous les vieillards, n'est-ce pas? Ah non, nous voulons continuer à gérer l'Église. Ah, vous êtes trop jeunes. Vous savez, vous allez faire des fautes, des erreurs, vous ne savez pas ce que vous faites, non? Mais, extérieurement, nous disons toujours, oh non, ce sont les jeunes qui devront. Oui, nous disons ça. Mais, oui, en fait. Parce que nous pouvons mieux faire. Alors, je vois un peu, n'est-ce pas, voilà, donc, voilà un peu, n'est-ce pas, là. Donc, même, je me dis, ok, si je rentre à Montréal, est-ce que je dois... Comment est-ce que, quelle serait la nature de mon service? Comment? N'est-ce pas? Moi, j'ai visité deux fois. Et pendant la réunion, j'ai observé comment les jeunes partagent. Oh, oui. Et donc, pendant la réunion, j'avais de la commune avec l'autre frère. On était ensemble et on regardait. Et on n'avait pas besoin de nous. Bon, mais ceci dit, on a besoin. Notre fonction est nécessaire, mais différente, n'est-ce pas? Donc, voilà un peu, n'est-ce pas? Voilà un peu. Ah, oui. Un peu d'application, n'est-ce pas? Ne vous accrochez à rien. Tout ce que vous avez, n'est-ce pas, c'est mesuré par le Seigneur. Mais il n'y a rien qui m'appartient. Il y a des choses qui me sont données, qui me sont accordées pour que je m'occupe, n'est-ce pas, du terrain. Mais il n'y a rien qui m'appartient. Je dois être ouvert, je dois être prêt à laisser tomber. C'est-à-dire que s'il y a un autre frère qui veut entrer dans le terrain, je dois être ouvert. Je dois... Ah non, mais s'il entre, c'est lui, il entre, il va tout gâcher. Il va tout gâter ce que moi, j'ai démarré. N'est-ce pas? Et c'est pas facile. Pas facile. Le Babel en nous est tellement fort, n'est-ce pas? Que là où nous n'avions rien avant, maintenant, nous vivons comme si nous l'avions toujours. C'est comme Saül. Dieu lui a. Samuel lui a dit : toi, tu n'avais rien, tu étais, n'est-ce pas ? On t'a. On avait. Oui. Oui, c'est ça, n'est-ce pas ? Et maintenant, tu t'es présenté, tu t'es montré comme quelqu'un, n'est-ce pas ? Avec quelque chose. Mais tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Mais Babel dira, non, non, c'est moi. C'est moi. C'est moi qui a tout fait, n'est-ce pas, pour atteindre Dieu. Donc, Dieu, tu ne vas pas le toucher. C'est pour toi, mais tu n'as pas le droit de le toucher. Oui, nous sommes des êtres bizarres. Un frère a dit que les chrétiens sont les créatures les plus complexes, les plus bizarres. Vous voyez. Donc, Jéroboam, n'est-ce pas, il a essayé de préserver son royaume. Et en le faisant, il a détourné le peuple de Dieu. Donc, quand nous essayons de préserver notre royaume, les frères, les saints vont perdre leur pureté. Il y aura autre chose. Il y aura un autre centre d'adoration. Vous allez dire, ah, ça veut dire que je laisse l'église aller comme ça. Non, non, non. Non. Il faut comprendre. Non, il ne s'agit pas de ça. Ça veut dire que dans la fonction, le fonctionnement, l'exercice des frères et des sœurs, tous les saints doivent avoir la liberté de s'exercer, de se donner au Seigneur là où, n'est-ce pas, le Seigneur les a dirigés. Le terrain doit être ouvert. Et bien sûr, on a besoin de perfectionnement. N'est-ce pas? On a besoin, on va dire, oh, donc n'importe qui peut faire n'importe quoi. Non. Voilà. Voilà, n'est-ce pas, la fonction, l'exercice des frères et des sœurs qui connaissent le Seigneur. Comment être avec les frères et les saints? Comment les accompagner? Comment les perfectionner? Comment les faire entrer dans le service? Mais ce n'est pas que vous les laissez faire, vous dites, ah, ok, je me retire et allez-y, faites ce que vous voulez. Non. Mais vous êtes prêt à laisser tomber votre, n'est-ce pas, morceau de propriété pour que d'autres puissent entrer. Mais vous les accompagnez. Si ça, n'est-ce pas, vous êtes avec eux pour que eux, ils puissent se lever, pour que eux, ils puissent accomplir leur ministère. Oui. Oui, je veux accomplir mon ministère, mais souvent aux dépens des autres. Je veux accomplir mon ministère, alors les autres, n'est-ce pas, ils ne pourront pas. Non. C'est la vie de l'Église doit être ouverte dans ce sens, n'est-ce pas? Donc, Jéroboam n'était pas prêt. Il a gardé ce que Dieu lui avait donné. De sorte que Israël, le royaume du Nord, est devenu. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont quitté. Très tôt dans leur histoire, ils ont abandonné nettement Dieu. Et Dieu était quand même assez. Il a préféré ça, n'est-ce pas, que la perfidie de Judas. Il dit en Jérémie, Israël, ils m'ont abandonné, nettement. Mais vous, n'est-ce pas, Judas, vous avez continué n'est-ce pas, à jurer, n'est-ce pas, à prétendre que vous m'appartenez, tandis que vous avez en même temps suivi d'autres choses. Vous voyez. Donc, méfions-nous. Ça, c'est... c'est quelque chose qui nous touche, n'est-ce pas, peut-être pas tout le monde, mais d'une certaine manière, tout le monde. Même si vous êtes jeune, n'est-ce pas, vous êtes jeune, soyez élargis pour encourager d'autres jeunes à rentrer. Ce n'est pas une société secrète avec une série de lois, n'est-ce pas, de codes mystérieux. Non, c'est ouvert, n'est-ce pas, c'est ouvert. Donc, il faut accueillir les frères et les sœurs, n'est-ce pas, pour que eux, ils puissent fonctionner, ils puissent trouver leur domaine. Rien n'appartient. Christ nous appartient, n'est-ce pas? Ça, c'est notre portion. L'Église ne nous appartient pas, l'Église appartient à Christ, n'est-ce pas? L'Église appartient au saint, l'Église des Thessaloniciens, l'Église de tous les saints. C'est-à-dire, pas de moi, de tous les saints. Mais, en fin de compte, l'Église appartient à Christ. Donc, si je vis pour Christ dans la vie de l'Église, si je ne vois que Christ, je dois retirer ma main, n'est-ce pas? Je dois être prêt à être touché pour reconsidérer ma fonction, n'est-ce pas? Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est pas la question. Qui es-tu? Que veux-tu que je fasse? Ces deux questions peuvent nous sauver. Parce que trop souvent, nous savons déjà qui est le Seigneur. Et nous savons ce qu'il veut que nous fassions. Alors, ça c'est pas mal. C'est genre bref. Ah, le Seigneur m'a dit. N'est-ce pas? Et effectivement, le Seigneur lui avait dit. Alors, il était content.
Voilà un peu le
oui. Amen. Est-ce que vous voulez que je continue ou ça? Mais ça, c'est un peu... chaque fois que je partage quelque chose comme ça, je sais que sans l'application, sans l'expérience, tout ça, c'est... Ça va rester ici ou ça va avoir nul effet, aucun effet. Il faut que ça soit pratique. N'est-ce pas? Il faut que... Le Babel en nous soit exposé. Amen. Le Babel en moi soit exposé. N'est-ce pas? Autrement, ça reste de la doctrine. Voilà. Peut-être que dans l'après-midi, on va s'adresser. On va parler de la grande Babylone, Apocalypse. Et aussi, on va parler de du terrain de l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire de sortir de la Babylone? Apocalypse. L'appel, sortez du milieu d'elle. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que c'est que la grande Babylone? J'ai un peu peur. Quand je parle de ces choses, il y a certains frères qui sont très... très net et ils disent alors je ne sais pas comment selon la direction du Seigneur il y a certaines choses qui doivent être touchées
et donc que le Seigneur nous dirige. Comment parler de ces choses, même aux autres croyants, n'est-ce pas, aux croyants, hein, aux croyants, quand on nous demande c'est quoi la grande Babylone, qu'est-ce que vous allez dire? Peut-être que vous êtes beaucoup plus courageux que moi. Donc, j'aimerais ça. Mais voilà, est-ce qu'il y a des témoignages, des réponses?